Le sujet sera, comme vous l'avez vu sur le programme, l'Agba Omer et l'étude de la Kabbale aujourd'hui. Alors commençons d'abord par l'Agba Omer, après on passera à l'étude de la Kabbale aujourd'hui. Pour ce qui est de l'Agba Omer, vous savez que l'Agba Omer, c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est-à-dire le jour où nous fêtons Rabbi Shimon bar Yochai, ce qui a priori semble un peu bizarre étant donné qu'on ne va quand même pas faire la fête parce que quelqu'un est mort. On devrait au contraire s'en attrister et faire un jeûne éventuellement. Cette question a été posée au XIXe siècle par Rabbi Tzadok de Lublin, qui fait une distinction entre deux sortes de tzadikim, deux sortes de rabbanim. Les rabbanim étant supposés être des tzadikim. Nous avons trois tzadikim pour lesquels on fait un jeûne. Il s'agit de Moshe Rabbeinu, le 7 du mois de Hadar, le jour de sa disparition. Certains ont la coutume de jeûner. De même pour ce qui est de Aharon, le frère de Moshe Rabbeinu, Aharon à Cohen, dont la disparition c'est écrit en toutes lettres dans la Torah, c'était le premier jour du mois de Av. Et bien que ce soit Rosh Chodesh, le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de jeûner le jour de Rosh Chodesh Av, étant donné que c'est la disparition d'Aharon. Et le troisième étant Ezra à Sopher, dont le jeûne coïncide avec le 10 Tevet. Enfin, le jour de sa disparition. Donc, nous jeûnons également le 10 Tevet à cause de la disparition de Ezra à Sopher. Donc, nous avons ici trois chachamim pour lesquels on jeûne. Et la raison, c'est que ce sont des tzadikim de ce qu'on appelle la Torah écrite. La Torah Shebichtav, la loi écrite. Et la loi écrite dépend, pour être diffusée, pour être enseignée, elle a besoin de quelqu'un qui l'écrive. Donc, si le tzadik meurt, il cesse d'écrire. Donc, ce que nous, la raison pour laquelle nous portons le deuil, c'est justement à cause de l'arrêt de l'écriture. Et tandis que tous les autres tzadikim, en particulier ceux qui sont les personnages centraux de la Torah Shebéalpé, de la loi orale, eh bien, nous sommes contents le jour où ils meurent. Pour une raison très simple, c'est que jusqu'à présent, la Torah était chez eux. Et donc, si on voulait comprendre leur Torah, il fallait s'adresser à eux, tandis qu'à partir du moment de la disparition du tzaddik de la Torah chez Baalpé, eh bien à partir de ce moment, la loi orale devient l'héritage de tout Israël. Et donc leur enseignement continue à travers la communauté d'Israël, c'est donc un jour de joie. Et le plus grand des maîtres de la loi orale étant Rabbi Akiva, on devrait donc faire la fête pour le jour de la disparition de Rabbi Akiva. Mais il y a pour ça deux problèmes, c'est que d'une part, il est mort le jour de Kippour. Vous n'allez quand même pas faire la fête le jour de Kippour. Et à part ça, il est mort dans des tortures que lui ont fait les Romains. Et alors ça, c'est très attristant, justement, le supplice de Rabbi Akiva. Et donc, tout cela a été repoussé à le plus grand de ses élèves. C'est Rabbi Shimon bar Yochai. En quoi est-il le plus grand de ses élèves? Parce qu'il avait le même caractère que Rabbi Akiva. Rabbi Shimon bar Yochai disait à ses élèves, apprenez mon comportement parce qu'il est semblable à celui de Rabbi Akiva. Terumot midotav shel Rabbi Akiva. Et donc, on fait la fête pour Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a simplement aussi un autre problème, c'est qu'il n'est pas du tout évident que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le jour où il a révélé ses secrets. Mais selon le texte du Zohar, il semble que ça a pris plusieurs jours, cet enseignement. C'est qui est concentré dans la partie du Zohar appelée Hidrasuta, qui est à la fin du Zohar. Et enfin, peu importe, de toute façon, la source qui dit que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un livre imprimé. C'est dans le Shaar HaKavanot, et là-bas il est dit Yom She. Hier, ça s'écrit Aleph Yud Yud Resh. C'est pas grave. Je ne vais pas faire des corrections en public. Et donc, dans le Shaar HaKavanot, il écrit que c'est le jour où est mort Rabbi Shimon bar Yochai, Yom Shemet Rashbi. Mais en fait, dans le manuscrit, on a découvert que le mot, c'est pas Shemet, mais Simchat, le Het est tombé. Donc, il faut dire le jour de la joie de Rabbi Shimon bar Yochai, Yom Simchat Rabbi Shimon bar Yochai. En tout cas, donc, c'est le jour de l'Agba Omer. Ce jour est important. C'est le jour qui est consacré à la diffusion de la Kabbalah. C'est là que la Kabbalah est popularisée dans le peuple d'Israël. Ce qui est absolument surprenant, c'est l'étendue du phénomène. C'est-à-dire, parfois, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, et ils fêtent le personnage de Rashbi. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le problème de savoir quelle est la proportion de personnes parmi celles qui montent à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai qui comprennent son enseignement ou qui même l'ont lu ou l'ont, disons, plus ou moins intégré. La réponse, c'est que c'est une fraction infime. Mais c'est justement ça ce qui est extraordinaire dans la Kabbale, c'est que contrairement à la philosophie qui n'est compréhensible, qui n'est accessible et sensible que pour les philosophes, eh bien, la Kabbale a cette faculté justement d'inclure tous les niveaux d'être. Donc, il y a de très grands érudits qui comprennent cet enseignement dans sa profondeur, et il y a le populaire qui, lui, se sent relié par ces dimensions que les kabbalistes appellent or makif, la lumière qui entoure. Et il y a la lumière intérieure, la pénibi, la lumière qui entoure. Et dans cette lumière qui entoure, tout le monde se sent concerné. Donc, c'est également une des particularités de la Kabbalah, qu'elle a cette capacité de ne pas faire de différence entre ce qui est grand et ce qui est petit. Non seulement au niveau des récepteurs, il y a dans la Kabbalah également, dans le contenu même de la Kabbalah, un sentiment de profonde unité entre les domaines les plus élevés et les plus bas. Je vais vous donner un exemple tout simple de ça. Vous savez que, bon, aujourd'hui, l'usage, quand quelqu'un se marie, eh bien, le marié donne à la mariée un anneau. Un anneau est la formule consacrée, Ariat Mikudeshet Li, etc. Or, cet anneau peut être de n'importe quelle forme, à la limite, ça peut pas être anneau, ça peut être n'importe quel objet de valeur, mais l'usage en Israël, c'est de donner un anneau. Alors, les kabbalistes, eux, se mêlent de savoir comment est-ce qu'on fait l'anneau. Ils vont vous dire, ben, l'anneau, il doit être fait en argent et pas en or, parce que l'argent représente la midat hesed, tandis que l'or, c'est la midat din. Donc, il faut la bonté plutôt que la rigueur dans un mariage, puisque c'est un moment de don, on se donne à l'autre personne. Et puis, également, disent les kabbalistes, il faut que cet anneau soit rond à l'intérieur et carré à l'extérieur. Ah bon? Pourquoi donc? Eh bien, c'est parce que la création de l'univers tout entier se fait par deux moyens, les lignes et les cercles, la ligne droite et la ligne circulaire. Ça s'appelle Igulim et Yosher. C'est un sujet extrêmement profond dans l'enseignement du Hari, qui correspond d'ailleurs au problème de la quadrature du cercle. Le fait qu'on n'arrive pas à réduire un cercle à quelque chose de mesurable par une droite, ce qui vous donne le chiffre 3,14, c'est-à-dire le pi, qui est en Gématria, qui vous donne 314, qui est le nom de Dieu Shaddai. Et enfin, bon, il y a des mystères absolument extraordinaires liés, si vous voulez, à ce qui est antérieur au Big Bang, c'est-à-dire la formation des univers. Je veux bien, mais là, il s'agit d'un mariage. Un mariage, c'est quelque chose de personnel, c'est la fondation d'une famille parmi tant d'autres. Et alors, vous voyez que pour les kabbalistes, un événement aussi banal que la fondation d'une famille dans un cercle extrêmement restreint, cela a un rapport avec le cosmos tout entier, avec la formation du cosmos. Et donc, ça veut dire que pour les kabbalistes, il n'y a pas grand et petit, le grand se retrouve dans le petit se retrouve dans le grand. Ce qui revient donc à ce que nous avons dit tout à l'heure, cette popularité de Rabbi Shimon Bar Yochai qui se manifeste le jour de l'Agba Omer, du fait que tout le monde se sent concerné, qu'on y comprenne quelque chose ou qu'on n'y comprenne pas. Alors évidemment, on peut, au niveau sociologique, dire, ah oui, ça c'est pour les âmes faibles. Mais au contraire, on peut très bien comprendre que c'est justement la grandeur de la Kabbalah qui inclut le grand et le petit. À ce propos, il est dit dans la Gemara, au nom de Rabbi Yohanan, que tout endroit où l'on trouve la grandeur de Dieu, c'est là qu'on voit son humilité. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu est présent dans les hauteurs, il est présent dans la petitesse. Pour donner une petite parabole qui expliquerait ce que ça veut dire, imaginez la différence entre un grand roi et un très grand roi. Un grand roi, pour qu'on sache qu'il est grand, a besoin de créer une distance entre lui et ses sujets. Mais si le roi est très grand, alors sa très grande grandeur se manifeste dans le fait qu'il est capable d'aller acheter des tomates au marché, et on voit quand même que c'est le roi. C'est-à-dire, eh bien, c'est ça qu'enseigne la Kabbalah. C'est un monothéisme intégral qui n'est pas une pensée aristocratique, c'est une pensée globale. Et c'est ça donc la joie de l'Agba Omer. Au niveau des séphirot, vous savez que les 49 jours, les 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot, l'époque du Homer. Alors, elle est marquée par les kabbalistes comme étant sous le signe à chaque fois d'une autre séphira. Une séphira, ça veut dire des hypostases, des manifestations divines. Et donc, dans ces manifestations divines, vous en avez sept qui sont concernées par le temps. Vous savez qu'il y a 10 séphirotes, mais il y en a sept qui sont dans le temps historique. Ce sont les sept séphirot, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Et la cinquième semaine, celle dans laquelle tombe l'Agba Omer, c'est le moment de la séphira appelée Hod. Hod, éclat. L'éclat qui resplendit, n'est-ce pas? Et cet éclat, alors chacun des sept jours correspond également à une des sept séphirot, ce qui fait donc que le 33e jour du Omer tombe sur Hod Sheba Hod, l'éclat de l'éclat. Et pour les kabbalistes, l'éclat de l'éclat, c'est la lumière qui vient de l'obscurité. C'est-à-dire, par exemple, dans le livre de Bereshit, quand il est question de la création de la lumière, quand il est dit « Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher », Dieu fit la différence entre la lumière et l'obscurité, eh bien, les kabbalistes nous disent « La lumière, c'est Netzar, l'éternité, et l'obscurité, c'est la lumière appelée Hod. » C'est-à-dire, c'est une obscurité qui est lumière. C'est-à-dire la capacité de découvrir la lumière au sein de l'obscur, c'est ça on va dire, la caractéristique de la science du Zohar, qui est révélée par Rabbi Shimon bar Yochai. Eh bien, donc le Hod Sheba Hod, là où c'est le noir du noir, c'est là que vient la lumière de la lumière. Et c'est le moment donc du Zohar. C'est ça donc qui se passe lors de l'Agba Omer. Il y a un sentiment inné, pour dire instinctif, chez les enfants d'Israël, que c'est le moment où la lumière va apparaître du sein de l'obscurité. Ça, c'est donc le premier point. Une seconde, on me dérange là. Excusez-moi. Il faut que je débarrasse. Ah là là, ah là là. Que faire? Voilà, c'est réglé. Voilà. Et donc c'est le moment donc où se manifeste la lumière au sein de l'obscurité. Alors je ne sais pas si le Rav Etan Fison vous en a parlé ou pas. Il y a une tradition et une chaîne de tradition qui est liée à la manifestation des secrets de la Torah, qui passe par cinq époques différentes, qui correspondent, si vous voulez, aux enjeux des kabbalistes au cours de l'histoire. En effet, si la Kabbalah, c'est la science secrète, la Torah Tanistar, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Kabbalah pourrait être révélée, diffusée au grand public? C'est absolument impossible. On ne peut pas révéler quelque chose qui est caché. J'irai même plus loin, une remarque que faisait le Rav Kook, qui a été transmise par le Rav Neria, c'est qu'il y a deux sortes de secrets. Il y a un secret qui est secret parce qu'on ne l'a pas révélé. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne te le dirai pas. Par exemple, le numéro secret de ma carte de visa. Oui, mais le jour où quelqu'un trouve ma carte de visa, il connaît le numéro. Tandis qu'il y a des secrets qui, par essence, même quand ils sont révélés, restent secrets. Et c'est exactement ça le cas des secrets de la Torah. Les secrets de la Torah sont faits de telle manière, de telle sorte, que même une fois qu'ils sont révélés, l'essence du secret reste secret. Et c'est donc inaccessible par définition. Et c'est ça donc qui se passe lorsque l'on révèle les secrets de la Torah au cours de l'histoire, c'est comme si on ne les avait pas révélés. En fait, on peut dire que les révélations faites au cours de l'histoire ce sont des dérivés des secrets de la Torah, mais les secrets de la Torah eux-mêmes n'ont jamais été écrits, ils ne peuvent pas être écrits. Ils sont transmis de manière intuitive de maître à élève au cours de l'histoire, et ce n'est que, disons, la branche qui peut concerner les enjeux spirituels d'une certaine époque qui est révélé. C'est la raison pour laquelle nous avons, à chaque fois, dans la formulation de la Kabbalah, une reformulation. La première époque des kabbalistes, c'est les prophètes. C'est le temps des prophètes. D'ailleurs, le Talmud nous dit que les paroles des prophètes sont appelées divrei Kabbalah, des choses que l'on reçoit. Et ce qui est surprenant, si c'est vrai, c'est que alors le terme employé pour désigner les prophètes devrait être mekablim, ceux qui reçoivent. Or, le terme employé, c'est mekoubalim, ceux qui sont reçus. C'est pas eux qui reçoivent, c'est eux qui sont reçus. Ça veut dire quoi être reçu? Ça veut dire être agréé dans sa prière. Mekoubal bitfilato, il est accepté, sa prière est acceptée. Et le fait que la prière soit acceptée, c'est parce qu'il est prophète. Vous savez que la première fois qu'apparaît le mot prophète dans la Bible, c'est également le premier endroit où apparaît le mot prière. Navihu veyitpalel ba'atra, comme il est prophète, il pourra prier pour toi. Et à tel point que si on faisait une étude sur la prière, on comprendrait le problème qu'il y a de faire la prière de nos jours. Nous ne sommes pas des prophètes, nous n'avons pas un seul prophète parmi nous, et pourtant nous faisons la prière, ce qui est absolument paradoxal. On ne devrait pas pouvoir faire la prière. En tout cas, quelle que soit la solution que nous donnons à ce problème, les prophètes, eux, savaient faire la prière, et les prophètes sont confrontés avec leurs opposants. Qui sont les opposants spirituels des prophètes à l'époque des prophètes? Eh bien, c'est la mythologie, le paganisme, avec sa science, qui est celle de la mythologie, qui s'oppose à l'enseignement des monothéistes prophètes. Et là, à nouveau, on peut se dire, mais non, on va se dire, il faut simplement comprendre qu'à l'époque prophétique, à l'époque donc celle du Tanakh, eh bien, il n'y a pas d'athéistes dans le monde. Les athées n'existent pas. D'ailleurs, comme disait Manitou, au moment de Mincha, l'athée fila. C'est-à-dire, ce qui est une vanne qui est censée vous reposer un peu de la tension spirituelle terrible de ce cours. Et donc, pour revenir à ce qui se passait à l'époque des prophètes, la présence du Créateur est ressentie de manière immédiate dans le monde. Donc, on ne peut pas nier l'existence de Dieu. C'est absolument ridicule. C'est le temps où Dieu parle, il se fait entendre du monde entier. Cette écoute, dans sa version la plus pure, la plus filtrée, c'est celle des prophètes, qui eux reçoivent la lumière dans sa pureté, et puis de manière, disons, diffractée, plus ou moins pure ou impure, passe chez les nations et ça devient la mythologie. Ce qui explique pourquoi est-ce que les prophètes parlent dans le même style de parole, les mêmes thèmes que la mythologie. Alors, contrairement à ce que pensent certains académiciens, comme quoi le prophétisme d'Israël serait le fruit du paganisme antique, c'est exactement le contraire. Le prophétisme d'Israël est une réponse au paganisme antique. Et donc, pendant tout le temps de la révélation prophétique, il y a opposition à la Avodah Zara, à l'idolâtrie, il n'y a au paganisme, il n'y a pas d'opposition à la philosophie, elle n'existe pas encore. Il y a un maître de cette époque-là, le maître de tous les prophètes, il s'agit de Moshe Rabbeinu. Si nous passons maintenant à la deuxième époque, c'est celle juste après le moment où s'arrête la prophétie. C'est-à-dire, il y a un temps, non, ça va comme ça. Bon, il y a un temps où les prophètes cessent de parler. C'est exactement le temps où la Bible cesse d'être écrite. C'est-à-dire, la fin de la prophétie, c'est la fin du Tanakh. Et c'est le moment de l'histoire où on va rentrer dans le monde de la nostalgie de la prophétie. Et le monde entier ressent cette nostalgie et une des manifestations, indépendamment de celle qu'on appelle la philosophie ou des religions qui vont naître après la fin de la prophétie, va apparaître également le monde des mystères. Il y a un mysticisme qui imprègne la civilisation du temps antique, c'est-à-dire l'époque du deuxième temple, de Jérusalem, c'est le temps où il y a chez les Grecs les mystères d'Éleusis, les mystères de Delphes, où apparaît le gnosticisme en Égypte, et tant d'autres cultes qui vont développer cette idée d'une révélation de lumière. Et ces lumières sont plus ou moins, disons, ressenties chez les nations, et c'est le moment où la Kabbale va devenir ce qu'on appelle la Merkava. C'est la contemplation du chariot céleste. Et là, vous avez des livres tels que le livre de Hanor, le Sefer Yetzira, les Hechalot, qui représentent des ascensions mystiques des grands tzadikim. Vous avez le personnage de Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Hanina ben Dosa, et également Rabbi Ben Yochanan ben Zakkai, Rabbi Meir, et Rabbi Akiva et Rabbi Shimon bar Yochai. Cette grande chaîne de maîtres sont là pour justement parler de la manière dont la rencontre avec le divin se fait comme avec des lumières au sein de l'obscurité. D'ailleurs, il n'est pas négligeable le fait que la fête de Hanouka, qui est une fête des lumières, apparaît justement à cette époque-là, dans la confrontation avec l'hellénisme. Et il y a donc à nouveau un chef de cette école, ça qui culmine avec le personnage de Rabbi Shimon bar Yochai. Et puis après le temps antique, commence l'époque dite du Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le Moyen-Âge est dominé spirituellement par la philosophie grecque. C'est vrai que la philosophie grecque a commencé à être formulée déjà dans l'Antiquité, à l'époque de ce qu'on appelle chez nous un Tchèque Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée. Mais cette manière, disons, d'appréhender le monde qui est celle du concept intellectuel, eh bien, ça commence à dominer le monde à un moment où la lumière disparaît. C'est le temps du Moyen-Âge. C'est le temps donc de la philosophie grecque, essentiellement celle d'Aristote, qui va dominer tout le temps, pratiquement toute l'époque intellectuelle du Moyen-Âge. C'est à ce moment-là que la Kabbale va être reformulée, sous différentes formes d'ailleurs, mais qui toutes ressemblent d'une manière ou d'une autre à la philosophie. Alors vous avez les branches, peut-être peu étudiées, celles du livre du Bahir, le Sefer HaBahir, attribué à un des grands maîtres, Rabbi Nechonia ben Hakané, qui apparaît en Provence au XIIe siècle. Et puis vous avez également, parallèlement à ça, le mysticisme des chassidés ashkénazes en Allemagne, avec Rabbi Uda Hassid, Rabbi Shmuel Hassid, et tant d'autres. Et vous avez, si vous voulez, le tronc de cet enseignement, ça se retrouve chez le Ramban Nachmanide, à Gérone et à Barcelone, en Catalogne. C'est là que agissent les grands maîtres de la Kabbale de l'époque, Rabbi Ezra, Rabbi Azriel de Gérone, Laurent Avad, Isaac l'Aveugle et tant d'autres, qui sont des noms qui, il y a ce qu'on appelle ça à l'université le cercle de Gérone. Simplement, ils ont besoin d'un terme pour dire quelque chose, donc ils le disent. Ils appellent ça le cercle de Gérone. C'est là que la Kabbale va se reformuler sous une forme de philosophie. Alors, c'est à tel point même que dans les encyclopédies, certains ont pu écrire que la Kabbale, c'est une forme de néoplatonisme juif, moyenâgeux, n'importe quoi. C'est simplement, ça, c'est une tradition qui trouve son origine dans le prophétisme et qui se reformule en fonction des nécessités du moment. Et donc, ça va prendre une forme, disons, qui ressemble à la philosophie. Voilà. Tout cela va continuer et se développer au cours des siècles. Ça va donner deux grandes écoles, celle de Rabbi Moshe Cordovero. Après l'exil d'Espagne, il y a un renouveau juif en Terre Sainte. C'est le moment où, en Eretz Israël, on commence à penser déjà à une Géoula active, effective, un retour à Eretz Israël, l'éventualité même de la fondation d'un État se profile à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que vous avez les enseignements de Rabbi Moshe Cordovero, du Shla, Rabbi Yeshaya ou Alevi Horowitz. Étant d'autres, je souffre de ne pas vous dire tous les noms, mais on fait ce qu'on peut. Et parallèlement, et on peut dire que le Ramak et le Shla sont en fait une conclusion de plusieurs siècles de formulation kabbalistique, et ça devient quasiment une sorte d'encyclopédie kabbalistique. Puis, c'est à ce moment-là qu'apparaît le personnage le plus important de cette tradition kabbalistique, Rabbi Yitzhak Luria, le Hari à Tzfat, qui, pendant un an et demi, livre son enseignement à quelques-uns de ses élèves, le plus central étant Rabbi Chaim Vital. C'est là qu'il y a, on pourrait dire, un renouveau du souffle prophétique qui se manifeste à travers l'enseignement du Hari. Et donc le Hari devient le personnage central de cette nouvelle forme de la Kabbalah. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu sur l'enseignement du Hari. L'enseignement du Hari est fondé sur trois éléments qui ont leur origine dans le Zohar, évidemment. Ah oui, on a peut-être oublié un peu de parler du Zohar au passage. Le Zohar est une sorte de compilation des enseignements kabbalistiques de l'école de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas un livre de Rabbi Shimon, c'est un livre de ses élèves et des élèves de ses élèves au cours de l'histoire, ce qui fait que ça arrive finalement au XIIIe siècle à Rabbi Moshe de Léon, qui était, on peut dire, le rédacteur en chef. Un peu à la manière dont Ravina et Ravashi ont été les rédacteurs en chef du Talmud, mais ils amènent les enseignements pendant 800 ans qui l'ont précédé, il y en est de même dans le Zohar, ce qui fait que le Zohar est un livre un peu hétéroclite, dans lequel il y a des strates de langage tout à fait différentes. Il y a parfois même des strates qui semblent ressembler comme deux gouttes d'eau à la philosophie grecque. Et il y a des enseignements mystiques, il y a différents styles d'araméen, parfois il y a de l'hébreu, il y a un peu de tout. D'accord? Par exemple, le sommeil, un phénomène kabbalistique qu'on appelle le sommeil des séphirotes, est appelé dormita. C'est pas sans vous rappeler quelque chose. Ou bien, par exemple, la synagogue est appelée la lumière du crépuscule, Esh Noga. Or, Esh Noga, ça veut dire la synagogue en portugais. Donc, vous avez un peu de tout dans le Zohar. Mais en tout cas, il y a eu une époque, pendant plusieurs siècles, on a discuté de savoir est-ce qu'on pouvait vraiment attribuer le Zohar à Rabbi Shimon Bar Yochai ou non. En fait, ça n'a absolument aucune importance. C'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle que soit la forme épigraphique qu'il a prise. La rédaction, pourrait-on dire, la forme rédactionnelle. En tout cas, donc, pour revenir au Hari, le Hari se base sur des enseignements du Zohar, essentiellement sur les parties les plus profondes, les plus sibyllines. Il s'agit du Sifra d'Itzmiouta, du Hidra Rabba et du Hidra Zouta, et encore d'autres passages par-ci par-là, qui sont l'essentiel de sa doctrine. Or, l'enseignement de Rabbi Shimon du Hari, il se résume, on pourrait dire, c'est difficile de le résumer, mais on pourrait dire en trois phases. Vous avez ce qu'on appelle le Tzimtzum, puis la Shevira, puis le Tikkun. Alors, le Tzimtzum veut dire la rétraction, et il y a quelqu'un ici qui fait du bruit là-bas, avec un téléphone ou un truc comme ce genre. Et donc, le Tzimtzum, c'est la rétraction, la Shevira, la brisure, et le Tikkun, la réparation. Alors, de quoi s'agit-il? Le Tzimtzum, c'est la manière dont la création du monde est expliquée par le Hari. C'est quoi le Tzimtzum? Ça veut dire que l'infini, la lumière Ensof, a laissé une place en son sein, dans le point central de son être, en créant un vide. Et ce vide permet l'apparition du monde. Alors évidemment, déjà, ne serait-ce que sur cette première phrase-là, vous avez une littérature qui n'a pas fini encore d'être écrite jusqu'à ce jour, pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à l'idée qu'on trouve traditionnellement, que le monde est créé à partir du néant, Yesh Me'ayin. Donc, s'il y a un néant, ça veut dire qu'il y a d'abord un néant qui précède l'être. Et ce néant, c'est une néantisation de l'être d'infini qui a précédé le monde. C'est ça donc le Tzimtzum. Et puis, au sein de ce vide, de cette vacuité qui a permis l'existence du monde, apparaît un filet de lumière. Ce filet de lumière est appelé Kav, la ligne. Et c'est à partir de cette ligne que sont formés tous les mondes spirituels et matériels. Et là, il est question également d'une dualité entre la lumière et réceptacles, les ce qu'on appelle les kélim. En littérature, on dit les vases brisés. Donc, il y aurait des récipients et une lumière qui remplit les récipients. Alors, par une suite de processus extrêmement compliqués, le Hari explique comment cette lumière a été trop forte et comment est-ce que les récipients, pardon, ont été brisés, ce qu'on appelle Shevirat HaKelim. Il y a à cela une allusion dans la Torah également. Après le Bereshit Bara, quand Dieu a créé, c'est-à-dire il a créé le vide, vous avez le deuxième verset qui nous parle du désordre, du tohu vavohu, un tohu bohu, comme on dit en français. C'est-à-dire que le monde vient et crée à partir non pas de ce qu'on appelle une page blanche, mais à partir d'une sorte de catastrophe spirituelle antérieure à l'existence de notre monde, qui est la Shevirat HaKelim, et la troisième phase étant notre monde à nous, qui est le monde du tikkun, de la réparation. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde complètement éclaté et nous faisons un puzzle que nous sommes en train de reconstituer au cours de l'histoire des hommes. Il y aurait donc des étincelles de sainteté éparpillées parmi les écorces, les clipotes. Ces étincelles sont au nombre précis de 380, de 288, et au cours de l'histoire, nous réparons les 288 étincelles qui sont tombées dans les clipotes. Voilà. Ça, si vous voulez, en gros, c'est ça l'enseignement du Hari au niveau métaphysique. Il y a également une pratique kabbalistique qui est celle des kavanot et tout ce qui s'ensuit, qui est lié également à l'enseignement du Hari. Ça, si vous voulez, c'est la troisième période. D'accord? Donc, je résume jusqu'à présent. Vous avez tout d'abord la période prophétique, puis après la période mystique, puis après la période kabbalistique proprement dite, celle de la Chochmat HaKabbalah. Et puis après, on arrive à la quatrième époque. La quatrième époque se situe déjà à l'abord de la modernité, lorsque le monde redécouvre quelque chose qu'il avait un peu oublié. Qu'est-ce qu'on avait oublié? Ben, on avait oublié que le monde était, qu'il y a dans l'homme ce qu'on appelle une vie intérieure. Cette vie intérieure qui est étudiée par les kabbalistes. Attendez, il y a un petit problème, je pense, au niveau de l'image. Voilà, c'est arrangé. Il y a chez les kabbalistes, non, pardon, pas chez les kabbalistes, il y a dans le monde de la pensée, il y a ce qu'on appelle la psychologie. Alors, la psychologie étudie la vie intérieure de l'homme et essaye de donner une sorte de forme plus ou moins systématique, si ce n'est scientifique, à la vie intérieure, ce qui a donné, entre autres, la psychanalyse, ce qui a donné en littérature le mouvement romantique. Et est arrivé à ce moment-là, au moment de la Renaissance, plus précisément de l'époque des Lumières, il y a eu cette nécessité de reformuler la Kabbale sous forme, si vous voulez, de vie intérieure, ce qui a donné le chassidisme. Le chassidisme qui emploie le même lexique, si vous voulez, le même vocabulaire que celui des kabbalistes classiques, mais qui va lui donner une forme liée à la vie intérieure de l'homme. La Shérira est-elle comme un orage qui permet ensuite de voir la lumière étincelante? Vous voulez dire la Shévira? Oui, on peut dire, on peut rapporter ça au problème justement du masque. Mais en fait, ce que vous dites va un peu dans le sens de la Kabbalah telle qu'elle a été expliquée par Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. On va y revenir d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, il y a un fondateur de toute cette école, le grand maître du chassidisme est au début du chassidisme. Il s'agit de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui agit donc essentiellement en ce qu'on appelle l'Ukraine actuellement et qui envoie ses élèves fonder des écoles un peu partout. Il y a une sorte de, si vous voulez, une sorte de forme sentimentale. Vécu existentiel du chassidisme qui est très importante, qui a beaucoup impressionné certains penseurs comme par exemple Martin Buber et tant d'autres, ou bien Pinchas Sadeh, etc. Et puis, à partir du 19e siècle, commence une nouvelle période. Au 19e siècle, Parallèlement d'ailleurs à tous ces mouvements qui continuent d'exister évidemment, par rapport au 19e siècle commence à apparaître une nouvelle idée. Cette idée est en fait c'est lié probablement aussi bien aux guerres napoléoniennes, les grandes guerres qui amènent des armées d'un pays à l'autre, mais c'est également lié également au développement technologique. Les hommes commencent à comprendre qu'ils ne vivent pas simplement dans le cercle de leur voisinage immédiat. Jusqu'au 19e siècle, l'écrasante majorité des hommes vivent dans un cercle qui ne dépasse pas 40 km autour de leur maison natale. On travaille, on se marie, on étudie, on a des joies, on a des peines. Tout cela dans un cadre extrêmement restreint sur le plan géographique, ce qui fait que la plupart des hommes n'ont aucune idée de ce qui se passe au-delà de la montagne qui borde leur maison. Et brusquement, il y a ce qu'on appelle un développement de la culture universelle et des idéologies liées à cela. L'homme commence à comprendre qu'il fait partie d'un mouvement collectif. Et ça prend deux formes essentielles, une de droite et une de gauche. Celle de droite, pourrait-on dire, c'est le sentiment national qui entraîne tout ce mouvement qui est l'autodétermination des peuples, les droits des peuples à l'autodétermination. Et c'est là que ça va vous donner le nationalisme. Et puis, du côté gauche, si l'on veut, il y a le développement de la conscience d'appartenance à une classe économique, et donc la compréhension du monde comme étant, l'histoire comme étant, l'histoire de la rivalité entre les classes. Ce qui vous donne, par exemple, le socialisme. Alors, il y a sous ses différentes formes, Proudhon, et puis évidemment le marxisme, et vous avez donc le communisme sous toutes ses formes. L'idée, donc, que l'individu ne fait pas partie simplement d'une famille extrêmement restreinte, ni même d'une nation, il appartient à une classe économique qui est en rivalité avec les autres classes économiques, le capital et le prolétariat. Donc, ce qui est commun à ce qui se passe à partir du 19e siècle, surtout dans la deuxième partie, et donc dans le 20e siècle aussi, c'est le sentiment de ce qu'on appelle en hébreu le klal, la collectivité. Et donc, il y a une reformulation de la Kabbalah. En fonction de cela, ça va être la Torah du klal. La Torah du klal, c'est celle qui est essentiellement concentrée dans l'enseignement du Rav Kook. Donc, le Rav Kook apparaît également à un moment de l'histoire extrêmement particulier, à un moment de reformulation de la Kabbalah en fonction de l'enjeu spirituel de l'époque, ce qui va donc vous donner ici, si vous voulez, cinq crêtes. Sur la crête, vous avez cinq sommets, si vous voulez. Vous avez Moshe Rabbeinu, puis Rabbi Shimon Bar Yochai, puis le Hari, puis le Baal Shem Tov, puis le Rav Kook. C'est-à-dire, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ce qui se passe au niveau spirituel dans l'histoire. C'est là que on commence. Alors, ça, on va en parler du Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Je ne veux pas tout faire à la fois, vous comprenez. Je suis bien obligé de dire une chose après l'autre, pas en même temps. D'abord parce que vous ne comprendriez pas, et puis aussi parce que j'en suis incapable de dire tout à la fois. Et donc, je reviens à l'enseignement du Rav Kook. C'est là que se manifeste la Torah de la Kabbale comme étant, si vous voulez, ce qu'on appelle Torah Teret Israël. Dans les Midrashim, il est dit qu'il y a une loi, une Torah, qui est incomparable aux autres. En Torah, que Torah d'Eretz Israël. Il n'y a pas de loi comme la loi d'Eretz Israël. De quoi s'agit-il? Quelle est cette Torah propre à Eretz Israël? Évidemment, les résidus de l'élan prophétique, c'est la Kabbalah. C'est la loi cachée qui est la loi d'Eretz Israël. Parce que ce qui est au niveau du Niglé, de la loi révélée, alors on connaît le Talmud. On n'a pas besoin forcément d'Eretz Israël pour accéder à la Halakha. Mais quand il s'agit des profondeurs de la Torah, c'est là qu'on a besoin donc d'Eretz Israël. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le Hari interdisait à ses élèves d'enseigner sa Kabbalah en dehors d'Eretz Israël. Ils l'ont fait quand même, ce qui a amené d'ailleurs certaines catastrophes telles que le sabbatianisme et autres problèmes. En tout cas, donc, la Torah d'Eretz Israël est une Torah cachée. En fait, elle est cachée pendant tout le temps de l'exil. Et elle se remanifeste au temps du renouveau. Il y a, vous connaissez cette histoire qu'on raconte de Rabbi Shimon Bar Yochai qui rentre dans la grotte. Et de cette grotte sort le Zohar. Mais ça veut dire quoi? La grotte en question, c'est un lieu de repli. En effet, la Guémara nous dit, Rabbi Shimon bar Yochai s'enfuit à cause de la persécution des Romains. Il risque la mort. Et donc, il est bien obligé de se concentrer dans la caverne. Mais pourquoi est-ce qu'il redoute la persécution des Romains? C'est que les Romains lui en veulent. Pourquoi est-ce qu'ils lui en veulent? Parce qu'il appelle à la révolte. Attendez qu'il critique le régime romain, comme c'est bien écrit dans la Guémara, eh bien, les Romains lui en veulent, dit c'est un élément dangereux. Et donc, cette aspiration à l'indépendance, cette aspiration à une vie entièrement normale de la nation d'Israël, a été comprimée, elle a été frustrée, et donc elle est rentrée en elle-même dans une grotte et elle est ressortie sous forme de Zohar. Or, si vous lisez le Zohar, d'un bout à l'autre et rapidement, alors on ne peut pas ne pas être frappé par l'atmosphère générale du Zohar. L'atmosphère générale du Zohar, c'est comme une sorte de grande complainte. C'est comme une élégie de deuil pour la Galoute. C'est-à-dire, la Shekhina est en exil et on rêve d'un monde parfait. C'est ça la Kabbale. Et ce qui se passe donc lors du sionisme, ça veut dire que les secrets de la Torah qui étaient cachés, maintenant vont se manifester. Jusqu'à présent, on ne les connaissait. Ils étaient restés dans le rêve des kabbalistes et ce rêve maintenant va devenir réalité. C'est-à-dire que lorsque vous plantez un arbre en Eretz Israël, vous révélez des secrets de la Torah. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le Zohar lui-même dit que c'est par l'étude du livre du Zohar que la Géoula viendra dans la miséricorde. Ipkun Yisrael min galuta birachame. Les enfants d'Israël sortiront de l'exil en miséricorde. Ça veut dire que si on n'étudie pas la Kabbalah, ça risque d'être dans la rigueur. Il y a à ce propos un enseignement très ancien d'un des grands maîtres de la Mishnah, antérieur au Tanaïm, il s'agit de Avtalion. Vous savez que juste avant l'époque des Tanaïm, qui commence avec Hillel et Shammai, il y a une période intermédiaire qu'on appelle celle des Zougot. Les Zougot, ce sont des doublets de deux sages à chaque fois qui dominent la génération. Et parmi ces sages-là, vous avez le doublet de Shemaria et Avtalion qui sont à la tête du Sanhédrin. Or, Avtalion disait, Chachamim Izaharu Bidivrechem. Alors, on traduit ça d'habitude comme ça. Sages, faites attention à vos paroles. Shema Tachovu Chovat Galut, de peur que vous n'alliez en exil, Vetiglu Lemakom Maim et que vous ne soyez exilés dans un endroit où l'eau est mauvaise, Veyavu Talmidim Abayim Acharechem, Vishtu Talmidim Abayim Acharechem Veyamutu, et que les élèves qui viendraient après vous ne boivent de cette eau et n'en meurent. C'est absolument incroyable. C'est quoi l'eau mauvaise? Il s'agit évidemment de doctrine hérétique. Et les élèves, ce sont ceux qui vont donner donc des hérésies. Mais c'est quoi? Faites attention à vos paroles. Alors Manitou expliquait, il faut lire ça comme ça. Mettez le Zohar dans vos paroles. Izaharu, ça veut dire mettez la lumière. Il y a donc des paroles qui sont sèches et des paroles qui sont lumineuses. Il faut savoir cacher la lumière dans vos paroles. Izaharu bidivrechem. Shema tachovu chovat galut, de peur que vous n'alliez en exil. Ce qui veut dire que c'est le Zohar qui fait sortir de l'exil. Eh bien, c'est ça donc, disait Avtalion. Or, ce qui se passe de nos jours, c'est exactement ça. La lumière qui était en exil, eh bien, cette lumière sort de sa cachette pour redevenir révélée. Alors, ça explique d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, un engouement très important pour la Kabbale. Alors, cet engouement est quand même symptomatique de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans la vie des hommes et qu'on commence à comprendre que quelque chose de très important se cache. Le problème, c'est que c'est en général fait de manière, disons, un peu infantile. C'est-à-dire, soit ça va donner les études académiques de la Kabbale à l'université, les chaires kabbalistiques sont remplies tandis que les chaires talmudiques sont vides, mais ça va donner également une sorte de magie populaire ou bien, disons, de mode mystique que l'on peut trouver dans de nombreux cercles qui prétendent enseigner la Kabbale sous forme en fait un peu de méditation hindouiste au grand public. Et il y a également ceux qui rentrent dans les secrets de la Kabbale, mais qui continuent à l'étudier uniquement selon la formulation qui a été donnée par les générations, sans voir de quelle manière cela correspond aux nécessités de notre époque. Or, s'il y a quelqu'un qui a réussi à traduire la Kabbale en termes qui correspondent aux interrogations de notre époque, c'est bien le Rav Kook. Ceci, d'ailleurs, a été bien mis en forme par un des plus grands de ses élèves, le Rav David HaKohen, le Nazir, dans son livre Orot HaKodesh, en particulier la deuxième partie, le deuxième volume de Orot HaKodesh, est une sorte de reformulation de la pensée kabbalistique en termes compréhensibles par une oreille moderne. Alors, ce n'est pas de la simplification, c'est quelque chose d'extrêmement profond, mais cela correspond aux interrogations de notre époque. Donc, il est parfois extrêmement passionnant de retrouver justement les sources kabbalistiques du Rav Kook pour voir comment est-ce que cet enseignement a été transmis et pour mieux le comprendre. C'est pour ça qu'il faut féliciter un des grands chercheurs actuels. Je parle du Rav, ce n'est pas vraiment un Rav, il s'agit de Yosef Avivi, qui n'a pas le titre officiel de rabbin, mais qui a écrit un livre gigantesque en 4 volumes, Kabbalat Ariya. Mais il y a également d'autres écoles. Alors, ces autres écoles se réfèrent à différents courants. Je vais être peut-être un peu simpliste. Simplement, il y a une école qui remonte au Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Rabbi Moshe Chaim Lutzato a été un de ceux qui ont voulu donner une forme, disons, philosophique à l'enseignement du Hari. Il a été précédé aussi par Rabbi Israël Sarouk et son élève Rabbi Avraham Herrera, qui ont formulé en termes philosophiques les enseignements du Hari. Et puis, il y a également, et donc, chez le Ramchal, il y a tout un enseignement qui est lié à une interprétation de la raison de la création. Et on va dire le fondement de l'enseignement du Ramchal est un fondement moral. Dieu a voulu faire le bien à un autre et c'est la raison de la création. Pourquoi n'a-t-il pas donné tout de suite le bien? Parce qu'il veut que la créature mérite par elle-même son bonheur, parce que ça, là, c'est un bonheur véritable quand il vient de la personne concernée elle-même. Ça, c'est l'enseignement du Ramchal, celle qui a donné plusieurs branches. Une des branches étant le Gaon de Vilna, et qui a repris l'enseignement du Hari en étant parfois en désaccord avec le Hari sur la base de l'interprétation du Zohar. Et puis vous avez également le Rav Kook, qui lui également, dans les enseignements fondamentaux, se base sur le Ramchal. Mais vous avez encore d'autres écoles, par exemple celle du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui lui est une sorte de parallèle au Ramchal et qui interprète à sa manière. C'est extrêmement ardu de bien comprendre un texte du Rachash, et donc je vous en ferai grâce là pour l'instant. Ici, il y a également un prolongement de l'enseignement de Rabbi Moshe Cordovero du Ramak, essentiellement à travers le chassidisme. C'est-à-dire, le chassidisme n'a pas tranché entre la doctrine du Hari et la doctrine du Ramak. Il y a des éléments dans l'enseignement du Ramak qui tournent plutôt vers le panthéisme qui est affectionné par les chassidim, tandis que dans l'enseignement du Hari, il y a également une place pour la transcendance absolue qui est, disons, privilégiée par les mitnagdim, les élèves du Gaon de Vilna. Chez le Rav Kook, il y a une sorte de réunion des deux. Il y a également, plus proche de nous, le Rav Shlomo Chaim et le Shlomo Ben Chaim Eliashov, le grand-père du Rav Eliashiv, qui a été un des maîtres du Rav Kook en Kabbalah dans ses livres qu'on appelle Leshem Shevo Vahachlama ou en plus court le Leshem. Et vous avez également un phénomène moderne relativement celle du Soulam. Le Soulam a besoin d'une petite place privilégiée dans ce cours. Le Soulam, c'est le Rav Yehuda Leib Ashlag qui a enseigné tout d'abord en Pologne, puis en Angleterre, puis en Eretz Israël, et qui a été si vous voulez, en sorte de conflit spirituel avec les élèves du Rachash, et qui a donné un commentaire du Zohar gigantesque, également un commentaire du Etzraïm, dans lequel il développe une doctrine qui, si vous voulez, d'une certaine manière, est un prolongement du Ramchal. Le fondement de la pensée du Baal HaSoulam, du Rav Hashlag, c'est que l'être de la créature est fait de volonté. La volonté, être une créature, c'est avoir une volonté de recevoir, ce qui donne une définition de créateur. Dieu, en tant que créateur, est celui dont l'être consiste à donner l'être. Et la créature est celui dont l'être consiste à recevoir l'être. Or, ça a l'air très joli, mais en vérité, ça pose un problème moral absolument énorme. Parce que si Dieu est celui qui donne et que la créature est celui qui reçoit, ça veut donc dire qu'être créature, c'est être le contraire de Dieu. Or, si Dieu est le bien absolu, donc la créature, c'est le mal. Je ne peux pas ne pas vouloir recevoir, mais vouloir recevoir, c'est le mal. Et alors, ça va donner, c'est comme ça, disons, que le Rav Hashlag va expliquer toute la chaîne de manifestation, ce qu'on appelle la Ishtalshelut, dont parlent les kabbalistes, depuis l'infini jusqu'au plus moindre des petits détails de l'existence. Il va expliquer tout cela comme tournant autour justement de la relation entre la volonté de recevoir et la volonté de donner. Ce qui va donner de manière, disons, très succincte, quatre manières de vouloir. La première manière, c'est la volonté de recevoir pour recevoir. Les Kabel, Almenat les Kabel. Ce comportement, c'est celui du bébé. Un bébé qui vient de naître, un tout petit enfant, n'a qu'une seule volonté, c'est celle de recevoir. Dans quel but? Dans de recevoir. C'est vrai que lorsqu'il veut recevoir, ça donne une satisfaction énorme à son entourage. La mère est heureuse d'allaiter. Et on est tout content quand il veut manger, quand il veut de la musique, quand il veut être bercé, quand il veut qu'on lui change ses langes. Mais en vérité, il ne veut que recevoir. Dieu serait-il tout simplement intelligence, ni bon ni mauvais? Alors ça, vous rentrez dans la conception des aristotéliciens. C'est très loin de la pensée kabbalistique ou même de la pensée biblique. Et donc, pour revenir donc à notre sujet, l'enfant, le comportement de l'enfant est adorable. Mais si vous transposez ce comportement d'enfant qui vient de naître, vous le transposez chez un adulte, ça vous donne un rachat, un méchant. Or, mais comme l'enfant remplit son rôle de manière parfaite, on est tout heureux qu'il soit fait entièrement. C'est une sorte de bloc de Yetzerara qu'on a envie de manger, tellement il est mignon. Mais il faut que ça se développe. Et alors, le bébé va devenir enfant. Et l'enfant, lui, a une autre sorte de volonté. Tu iras jouer dans la cour lorsque tu auras rangé ta chambre. Tu iras chez grand-mère lorsque tu auras fait la vaisselle. Et donc, quand tu auras fini tes devoirs. Donc, l'enfant prend l'habitude de donner ce qu'on lui demande, dans le but de recevoir. Et ça, c'est très bien, c'est son rôle d'enfant. Il veut recevoir, mais il sait que pour recevoir, il doit donner. Si vous transposez ça chez un adulte, ça vous donne un hypocrite. C'est-à-dire, je donne 1 million de dollars pour une entreprise de bienfaisance, mais je le fais parce que je sais que la presse viendra filmer. Donc je le fais, mais dans un but intéressé. Mais pour l'enfant, c'est très bien. Il n'est fait que de Yetzerara, de volonté de recevoir. Et puis alors vient la troisième phase. Cette troisième phase, qu'on trouve souvent dans l'adolescence, c'est le moment où on a pris l'habitude de donner. C'est-à-dire qu'il y a ici une imitation de Dieu. Et alors, il y a la capacité, pendant cette période de la vie de l'homme, de donner pour donner. Je veux donner pour pouvoir donner. Eh bien, c'est l'époque de l'idéalisme, mais c'est une époque dangereuse. Parce que qui ne peut que donner sans recevoir? Il n'y a que Dieu qui le peut. Et donc, si vous transposez ce comportement chez un adulte, vous avez un fou qui se prend pour Dieu. Et donc, c'est pour ça que cette période de la vie doit être, on doit la passer, mais il faut faire attention que ce soit assez court pour pouvoir surmonter. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi c'est l'époque de la vie où il y a la majorité de suicides. Parce que l'idéaliste sait intérieurement qu'il ne peut pas ne pas vouloir recevoir, et donc il en est malheureux. Pour lui, le monde est donc une condition malheureuse. Et alors, on peut arriver à la quatrième phase, celle de la réussite morale selon le judaïsme, qui est de vouloir recevoir pour donner. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ressemble un peu à l'époque de l'enfant, mais c'est un peu le contraire. L'enfant et l'adulte, les deux donnent et reçoivent. Simplement, l'enfant donne pour recevoir, l'adulte, le tzaddik, reçoit pour pouvoir donner. Et c'est donc une sorte, pas de symétrie, une sorte de déséquilibre en faveur du don. C'est ça qui va être l'essence même du tzaddik, qui est capable donc de prendre un bon repas de Shabbat. Et prendre un bon repas de Shabbat, c'est pour donner satisfaction à son créateur qui nous a dit de faire le Shabbat. D'accord? Et donc, ceux qui font le Shabbat uniquement parce qu'ils aiment le repas, il y a ici un problème. C'est une sorte de profanation de la sainteté. Et pourrait-on dire, cette explication de tout l'univers kabbalistique selon le Rav Ashlag correspond un peu à, c'est en parallèle avec l'existentialisme. Dans cette doctrine selon laquelle, c'est une philosophique du XXe siècle, selon laquelle l'homme se forme par lui-même. Il se forme à travers le don. Ça ressemble un peu d'ailleurs à l'enseignement de Lévinas, comme quoi c'est dans la rencontre avec l'autre que l'on achève son être. Ça, si vous voulez, c'est l'enseignement dit donc du Rav Ashlag. Chez le Rav Kook, il y a une petite différence, c'est qu'il y a une importance attribuée à l'essence même de l'être. C'est la pensée du Rav Kook qui est plutôt essentialiste plus qu'existentialiste. Elle donne la place à cette idée que nous recevons des informations non seulement par nos sens, par nos sentiments et par notre intelligence, mais que nous recevons également des connaissances à travers notre neshama. C'est-à-dire que l'homme, si un homme est capable d'entrer en contact avec son âme, c'est là qu'il reçoit la révélation de son être. De ce point de vue-là, donc, la pensée du Rav Kook est extrêmement actuelle. Elle est celle du retour d'Israël à sa terre et qui nous fait comprendre dans quel est le genre de société que nous devons fonder pour retrouver l'esprit prophétique. C'est-à-dire, à travers les grands mouvements des kabbalistes de nos jours, le Lechem, le Rav Ashlag, le Rav Kook, nous sommes à même de fonder un univers spirituel qui pourra être à nouveau le réceptacle de la lumière prophétique. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a tellement de fous aujourd'hui qui se prennent pour le Messie et qui se prennent pour des prophètes. Parce qu'il y a toujours le principe qui est Clipa Kodemet Lapri. L'écorce vient avant le fruit lui-même. Mais le fait même que ces phénomènes apparaissent et il y a un tel engouement pour la Kabbale, cela veut dire que quelque chose est en train de se préparer, évidemment avec les déceptions que cela va entraîner. Mais après les déceptions, c'est là que va se retrouver la réussite. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai est plus actuel que jamais. Il est enfin arrivé à ce moment de l'histoire où il prend un sens dans l'actualité. Et donc, c'est ça que nous fêtons le jour de l'Ag BaOmer. Merci de votre attention.
Alors, cher Todaraba,
Akasha.
attendez, j'ouvre les micros, ça y est, voilà. Todaraba,
Ah oui, il y a une petite question
Shabbatov.
là. Attendez, il y a ici quelqu'un qui pose la question sur tout le conflit d'aujourd'hui autour de la réforme ou non. En fait, n'oppose-t-il pas les deux façons de voir le monde dont vous venez de parler, c'est-à-dire ceux qui découvrent leur appartenance à une nation ou ceux qui découvrent qu'ils appartiennent à une classe? Bon, c'est une manière de voir les choses, mais ça demanderait des développements que nous ne pouvons pas faire ici. Et voilà, merci pour tous les remerciements qu'il y a ici. Shalom, shalom!